Je m'entretiens avec le Dr Yves Bonnier-Vigé, qui est le directeur de la santé publique pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Donc, on va faire, si on veut, un peu le portrait de cette dernière fin de semaine qu'on vient de passer. Yves Bonnier-Vigé, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, donc, au cours de la fin de semaine, on a eu 13 nouveaux cas, mais ce sont tous des cas reliés, on peut le dire ainsi.
Oui, ce sont des cas qui étaient déjà des contacts des gens qui avaient vécu l'éclosion là, dans la résidence de personnes âgées et qui étaient sous surveillance là, et en isolement chez elles et qui se sont mis à avoir des symptômes, qui ont eu un test et qui sont devenus positifs.
On a eu aussi, évidemment, une première personne décédée. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette personne? Est-ce qu'on peut connaître qui elle est, son âge, son sexe? Est-ce qu'on peut avoir quelques détails?
Tous les détails qui servaient à l'identifier, on ne peut pas, là. Disons que c'est une personne âgée qui était très malade et qui, malheureusement, a été atteinte par la COVID. Donc, elle a trépassé. Et puis, pour les autres détails, il faudrait demander à la famille, en fait.
C'est une personne qui était hospitalisée?
Elle a été hospitalisée, oui.
Est-ce qu'elle avait été transférée en raison de son état ou elle est restée ici?
À ma connaissance, elle est restée ici.
Bon, on a vu aussi en fin de semaine, durant les points de presse du côté nationaux, toute cette question de transmission communautaire. Le docteur Horacio Arruda, donc, considérait que finalement, la province était en transmission communautaire. J'aimerais vous entendre là-dessus, parce que chez nous, ce n'est pas le cas encore. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Ou est-ce qu'on... J'essaie de savoir comment un peu poser cette question-là. C'est assez particulier, là.
Oui. Ouais. Bien, du point de vue national, 85 % de la population du Québec vit dans des endroits où il y a de la transmission communautaire. C'est un peu ça que ça veut dire. Et puis, les 8 régions qui ne sont pas touchés, les 8 régions qui ont fait l'objet d'un arrêté ministériel pour diminuer la circulation, là, en fait, fermer en parenthèse les régions. Ces régions-là ne représentent pas, dans la balance totale de la population du Québec, beaucoup de personnes, même si c'est beaucoup, beaucoup de territoires. Mm-hmm. Donc, pour eux autres, l'enjeu principal de passer à la déclaration de transmission communautaire soutenue. L'enjeu principal, c'est la façon dont les travailleurs de la santé doivent se protéger. Donc, le plus gros là, des stocks de masques, de blouses, de gants, etc., tout ça, c'est consommé par, évidemment, les régions les plus peuplées, ce qui constitue 85 %. Donc, plutôt que de dire, par exemple, dans 2-3 jours, l'Abitibi-Témiscamingue vient de passer en transmission, puis c'était plus simple de dire l'ensemble du Québec est en transmission, tout le monde utilise les mêmes procédures. C'était plus simple, puis c'est plus sécuritaire aussi, parce que le jour où on passera en transmission, on aura déjà l'habitude de travailler de cette façon-là. Alors, voilà, c'est une question strictement opérationnelle qui est basée quand même sur le fait que quand même 85 % de la population est exposée à ça. Mais nous, on a la chance, disons, de vivre dans une région où on n'a pas encore cette transmission-là. Alors, donc, on va essayer de maintenir ce niveau épidémique-là le plus bas possible, le plus longtemps possible.
Au cours de la fin de semaine, bon, on en avait déjà parlé auparavant, les fameux points de contrôle. Là, il y a du personnel de la santé qui se sont joints, évidemment, aux policiers. Mm-hmm. Là, on parle de tenue de registre. On en sait un peu plus. Qu'est-ce qui se passe avec les gens, justement, qui sont inscrits à ce registre-là? J'aimerais que vous me donniez un peu de détails.
Bien, les gens qui sont inscrits au registre sont des résidents, des gens qui ont leur résidence principale dans notre région. Alors, ces personnes-là auront été invitées à se rendre directement à leur domicile sans s'arrêter et de s'assurer aussi qu'elles auront quelqu'un qui pourra leur apporter de la nourriture ou des médicaments, enfin tout ce qu'ils auront besoin. Mais dans l'hypothèse, pour s'assurer que c'est bien le cas, ben leur municipalité va les appeler pour leur souhaiter la bienvenue puis leur s'assurer qu'ils peuvent vivre leur isolement de 14 jours correctement. Et si ce n'est pas le cas, ben ils vont leur fournir ce qu'il leur faut pour le faire. C'est-à-dire que ce sera probablement principalement des organismes communautaires qui vont se mobiliser pour s'assurer que ces personnes-là puissent vivre leur isolement correctement sans avoir envie de sortir parce qu'il leur manquerait quelque chose d'essentiel. Alors, ça, c'est un petit peu l'idée de tout ça, là. Et on va les rappeler à mi-chemin pour savoir si tout va toujours très bien. Puis on les rappelle à la fin pour les remercier de leur collaboration, puis leur dire qu'ils ont terminé leurs 14 jours. Je pense qu'ils vont être très, très contents de ça.
S'ils respectent
un petit peu la façon dont on fonctionne.
S'il n'y a pas de respect comme tel, donc est-ce qu'on peut... On entendait la ministre de la Sécurité publique hier de dire à la population de dénoncer. Est-ce que vous allez dans ce sens-là aussi?
Ben, si, oui, effectivement, je pense que tout le monde au Québec, comme on l'a vu, la très, très, très grande majorité des gens respectent l'ensemble des consignes. Alors, si on avait quelques personnes délinquantes qui n'avaient pas encore compris l'importance de la chose, on pourrait leur rappeler avec les agents de la paix, là.
J'aimerais qu'on parle justement de question de rassemblement parce que on a vu aussi dans les points de presse en fin de semaine, François Legault, qu'est-ce qu'un rassemblement? C'était pas très clair et puis on se fie beaucoup au jugement du policier. Comment vous voyez ça, vous?
Bien, je le verrais pas, je le regarderais pas du côté policier, mais je nous ramènerais du côté santé. En fait, les gens vivent habituellement avec d'autres personnes, c'est leur famille. Donc, à partir du moment, tant qu'ils sont avec leur famille, on ne peut pas considérer ça un rassemblement. Mais à partir du moment où on est avec des personnes qui ne sont pas normalement vivant avec nous, ben il faut conserver la distance de 2 mètres, la distance de séparation, parce que vous ne savez pas qui va transporter le virus. Puis les gens qui transportent le virus ne savent pas qui le transporte. Donc... L'idée d'interdire les rassemblements, c'est d'interdire que des gens qui ne vivent pas habituellement ensemble soient proches les uns des autres à moins de 2 mètres. Donc, une fois qu'on sait ça, qu'on connaît le principe, qu'on sait pourquoi ça existe, là, ben là, c'est à nous autres à utiliser notre bon jugement pour que ça se passe. Je pense bien que si les policiers rencontraient des gens qui sont tous à 2 mètres les uns des autres, ils ne considéreraient pas ça comme un rassemblement.
J'aimerais vous entendre aussi sur des personnes qui nous ont rejoints par rapport au personnel de la santé qui travaille dans des établissements de santé où il pourrait peut-être avoir des cas à un moment donné où on soigne des gens qui, à leur heure de pause, soit pour le dîner ou le souper, vont sortir sans enlever leurs vêtements de travail. Des gens nous ont rejoints pour nous aviser de cette situation.
Ben, il faut avoir là encore une question de jugement. Les gens qui retournent à la maison ne devraient pas retourner avec leurs vêtements de travail qu'ils ont à l'hôpital, ça c'est certain. Ou l'inverse, là, ça peut être des vêtements qui sont dédiés uniquement à leur travail et qu'ils enlèvent en arrivant. Mais sortir pendant une pause, c'est pas nécessaire d'enlever ses vêtements si on n'est pas proche de personne. Ça ne pose pas de gros problèmes. J'imagine qu'ils ne vont pas se promener en ville pendant la pause. Hein. C'est très proche. Donc, il n'y a pas de... Toujours si la distance de 2 mètres est respectée. Je pense que c'est pas super dangereux.
Il n'y a pas de danger de transporter, en tout cas, si c'était le cas, le virus en dehors du centre des centres de soins? Ou...
Le virus, il se transmet de personne à personne.
OK.
C'est dangereux si on est proche d'une autre personne. Mais juste aller prendre une marche dehors, ça peut pas. Le virus, il se promènera pas dans l'air comme ça. Il est capable de sauter mes 2 mains.
OK.
Au-delà de ça, là.
Ça fait déjà une semaine qu'on a les postes de contrôle. Ça veut dire qu'à partir de la fin de semaine prochaine, on sera à l'intérieur du 14 jours, c'est bien ça?
Donc, ceux qui sont rentrés au début, oui, auront complété leurs 14 jours.
Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait voir une différence avec les données qu'on va recevoir là, d'ici là?
C'est difficile à dire. C'est vraiment difficile à dire parce que c'est pas le seul facteur. Mais c'est ça qu'on espère qu'au bout de 14 jours, ben les gens qui étaient rentrés avant le début de ces mesures-là, et qui vont probablement tomber malades parce qu'ils étaient dans des régions, ben ça, cette poussée-là devrait s'atténuer tranquillement. Alors, il ne devrait rester que les gens qui arrivent des régions qui sont déjà en isolement, qui vont peut-être tomber malades, mais ça sera plus facile à gérer parce qu'ils sont en isolement, tandis que ceux qui sont rentrés avant les mesures sont pas en isolement, donc s'ils tombent malades, ils risquent d'en infecter d'autres. Ça nous fait des enquêtes difficiles à faire, mais on les fait.
OK, donc ça pourrait permettre à ce moment-là de commencer ou en tout cas à aplanir une certaine courbe, là, parce qu'on aura.
Oui, ça va certainement contribuer, mais on s'entend que ce n'est pas le seul facteur.
Merci beaucoup, Dr. Yves Bonnivigier. Merci bien pour ce petit entretien et ce portrait de situation de la fin de semaine.
Ça m'a fait plaisir.